Bonjour, bonjour encore une fois, shalom, assalam alaikum. Après nos martyrs que nous avons honorés et commémorés hier, nous nous retrouvons aujourd'hui au club de la presse, comme nombre d'entre vous ont regagné leur lieu de travail ce matin. Nous sommes le jeudi 22 juin 2023 et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le club de la presse sur Canal FM Lomé ici, et sur les ondes de nos médias partenaires un peu partout à Lomé, à Takpamé, à Nekho, Sokodé, Bassa, Baga, Niamtougou, Dapaon, mais également en divers endroits de la planète Terre sur tous les 5 continents. Nous saluons et remercions les techniciens Thomas Datevi et Gérard Akucha. Et nous saluons et remercions également les confrères qui savent toujours se rendre disponibles à chaque fois que nous les sollicitons du lundi jusqu'au vendredi. Et également ces personnes ressources qui viennent nous enrichir davantage. Aujourd'hui, c'est Michel Tchadja de Ouara les Vainqueurs. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux confrères ici présents et surtout bonjour à Canal FM.
Bonjour à Canal FM, bonjour à tous nos partenaires, bonjour à toi également Oulo, Jean Legrand Polorini.
Sass, bonjour, bonjour aux confrères en studio, à tous ceux qui nous écoutent sur Canal FM. Et je salue particulièrement les retraités et principalement M. Kossi Keleou, qui vous suit religieusement.
Qui nous suit
autant pour moi.
Les retraités que nous serons dans 20, 25, 30, bien 40 évidemment. Ans, si Dieu nous prête vie.
Effectivement.
Et Jean Kossi et Lomati Tchogbe, nous avons la foi que Dieu nous prêtera la vie jusqu'à 80, 90 ans, n'est-ce pas?
Amen, amen, amen.
Et avec la bonne santé surtout.
C'est très important, c'est le plus important d'ailleurs, parce qu'à partir de 80 ans, vous commencez déjà à pousser des signes de fatigue. Mais bon, bonjour à toutes et à tous, bonjour SAS, bonjour aux confrères en studio, bonjour Canal FM. Jour pluvieux, il faut le dire, beaucoup de courage à tous ceux qui se retrouvent dans les zones inondées actuellement. Et aussi, bon courage aussi à l'équipe de l'ANPC, l'Agence Nationale de Protection Civile, qui peut-être remet le cœur à l'ouvrage en cette période de forte pluie.
Merci, l'ANPC, dont nous saluons le directeur et ses collaborateurs, dont le docteur Akibore, hein, l'autre technicien que nous recevons de temps en temps. Hein, du courage à vous, surtout équipez-vous, trouvez les moyens également de faire en sorte que, même si nous connaissons des zones de sinistre, que nous n'ayons surtout pas de mort à déplorer. Nous attendons un quatrième confrère, le temps qu'il nous rejoigne, mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, nous allons revenir sur les martyrs que nous avons honorés hier, et puis il y a un cas de violation d'une mineure qui défraie la chronique, nous allons en parler aussi. Il y aura une abondante page d'économie et développement avec le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui en principe, est annoncé à un sommet à Paris aujourd'hui, lequel Faure Gnassingbé a reçu la directrice générale du MCC. Et puis, il y a également des informations économiques dont vous nous parlez dans vos journaux. Il vient de nous rejoindre. Vous avez deviné, nous sommes jeudi. Il ne peut être que Teko Magloire Kenvi. Bonjour.
Bonjour à toi, Saskao, mon cher confrère autour de la table, et bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de Canal FM.
Lesquels auditrices et auditeurs pourront nous rejoindre sur le coup de midi en composant le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. C'est parti, jusque nous découvrions la pensée du jour qui nous enseigne que l'homme a quatre visages. Ce qu'il est vraiment, ce qu'il croit être, ce qu'il montre aux autres et ce que les autres perçoivent de lui. Encore une fois, nous avons tous quatre visages. Ce que nous sommes vraiment, ce que nous croyons être, ce que nous montrons aux autres et ce que les autres perçoivent de nous. L'essentiel, c'est que tout cela donne une belle harmonie, n'est-ce pas, Elam Kossi?
Oui, effectivement, comme d'habitude. Tout ce qui, en réalité, comme tu l'as dit dans la citation, est vrai, beau, c'est quelque chose qui est quand même agréable à regarder. Et je crois quand même que les uns et les autres peuvent se rendre compte qu'après la pluie, c'est le beau temps, comme mon homme le dit. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le beau temps après la pluie. Sauf que pour ceux qui sont dans les zones inondables, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas le beau temps, c'est quand même des graissements dedans.
Merci. Hier 21 juin, la journée que le Togo a décrétée en mémoire, en souvenir et pour commémorer le sacrifice de ces martyrs, comme c'est inscrit sur nos monuments, ils sont morts pour que nous soyons, que le Togo soit. Hier, nous avons vu le pouvoir et les officiels déposer des gerbes ici et là, avec des animations de circonstances. Et Flambeau revient sur le sujet aujourd'hui avec deux articles. Magloire, vous écrivez à la page 3, commémoration du 21 juin, mort pour la libération du Togo. Et puis à côté, l'éditorial, martyr oublié.
Justement, comme venait de le rappeler Sasgaou, hier c'était encore, la commémoration du 21 juin, qui est donc cette journée-là consacrée dans le calendrier républicain pour honorer donc tous ces concitoyens qui sont tombés pour la libération du Togo. La tradition a été donc respectée cette année et nous l'avons dit parallèlement justement aux festivités officielles qui se résument justement au dépôt des gerbes de fleurs, enfin de gerbes à la place des monts. À la place des martyrs, justement. On a eu à constater quand même que ces martyrs-là, on les connaît ou on les identifie tels et on les célèbre pratiquement chaque année. Mais parallèlement au processus de quête de la démocratie, eh bien, il y a eu d'autres concitoyens également qui sont tombés, mais qui, on va le dire ainsi, sont tombés carrément dans l'anonymat. Et lorsqu'il s'agit de célébrer justement ces martyrs officiels, il y a aussi ces martyrs-là qui sont méconnus du grand public et dont ne souffrent au quotidien que leur propre famille biologique. Et donc, nous le disons parce que c'est un constat que nous avons fait. Il suffit juste de faire référence à l'histoire pour parler, par exemple, des Sinandari Anselm et de Douti Sinaling, par exemple. Et si ce moment arrive, Dieu seul sait comment ces familles-là ressentent le remords qu'ils ont, ou du moins comment ces familles se sentent lorsque le Togo célèbre ces martyrs. Eh bien, ces martyrs-là qui sont méconnus, qu'est-ce qu'on en fait d'eux? Eh bien, nous pensons que c'est ce qui peut-être amène certains Togolais à ne plus trop s'engager, n'est-ce pas, sur un terrain politique, parce que vous tombez et après vous rentrez dans l'oubliette.
Merci. Les martyrs, il y a les martyrs officiels, il y a les martyrs d'à côté, les martyrs anonymes, hein, ceux que nous ne connaissons pratiquement pas et ceux dont ne se souviennent que les familles et les plus proches. Merci quand même à Flambeau d'avoir une pensée pour ces martyrs aussi. Et puis, est-ce qu'on peut également la catégoriser comme un martyr? Si vous suivez les réseaux sociaux et les journaux, vous devez avoir connaissance de cette fillette de 9 ans qui aurait été ou bien qui a été violée atrocement par un homme. Est-ce que la petite a la justice que ce crime appelle? Revue de presse avec Canal D qui écrit d'abord en éditorial: un crime de trop, ça fait mal. Et puis l'autre article: viol et meurtre, des voix s'élèvent et réclament lumière et justice dans l'affaire Josiane. La petite s'appelle Josiane en effet. Et le changement lui aussi écrit: décès d'une fille mineure des suites d'un viol. Ah, elle en est même décédée. Décès d'une fille mineure des suites d'un viol, la Commission nationale des droits de l'homme et des organisations de la société civile réclament justice. Jean, rebonjour.
Oui, rebonjour, Sass.
Mais avant de continuer, si vraiment elle est décédée, nous nous inclinons devant la mémoire de cette pauvre fillette de 9 ans du nom de Josiane. Alors, de quoi s'agit-il en effet?
Oui, Sass, il faut dire que c'est mercredi passé qu'un monsieur âgé de 47 ans a abusé d'une jeune fille de, je crois, 7 ans au niveau du quartier Léo 2000. Et après, il s'est débarrassé du corps. Je crois qu'il l'a jeté dans une rétention d'eau. Mais ça a été découvert après. Et on a su que c'est lui qui est également l'auteur de cet acte ignoble. Et ma foi, c'est quelque chose qui a choqué, qui a vraiment créé de la tristesse. Pour tous ceux qui ont une information, on voit une petite fille de 7 ans violée par un monsieur de 47 ans. On force la fille à avoir des relations sexuelles et puis après on tue cette petite. C'est l'occasion pour nous vraiment de nous incliner sur la mémoire de cette petite-là qui a perdu la vie, parce qu'aucun d'entre nous ne veut avoir un enfant qui est à peine dans la fleur de l'âge, très petit, et qui décède. Et dans quelles circonstances, je vous en prie, c'est vraiment effroyable et c'est effarant. Et cela repose vraiment une question de vraiment réfléchir à comment protéger nos enfants, parce que le monsieur en question connaissait bien la famille de la fillette. La fillette était habituée au monsieur. Le monsieur rendait des services même à la fillette parfois. C'est-à-dire des petits cadeaux par-ci, par-là. Et aujourd'hui, on se pose la question de comprendre comment effectivement faut-il protéger nos enfants. Parce que le danger vient parfois des gens que nous croyons être proches de nous. Comment est-ce qu'un monsieur proche de vous comme ça, en qui vous avez confiance, peut abuser de votre enfant? Ça amène à réfléchir. Et aujourd'hui, il va falloir que les parents mettent beaucoup d'accent sur la protection des enfants. Éduquer les enfants de façon à ce que, quand les enfants sont avec un inconnu, qu'ils aient des réflexes automatiques lorsqu'ils sentent que l'atmosphère n'est pas favorable. Lorsque peut-être
Mais Jean, tu parles d'une fillette de 7 ans qui est habituée...
9 ans
qui est habituée à la famille. On peut comprendre aisément que cette fille-là... naïvement ne prennent pas de défense devant cet homme.
Tu dis bien naïvement, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui il va falloir que les parents changent de méthode, parce qu'aujourd'hui vous ne savez pas si c'est la personne qui est proche de vous qui va agir ainsi.
Nous allons semer la méfiance les enfants, même vis-à-vis des tontons, des tantes, des plus proches de la famille.
Mais on n'a plus le choix, ça, c'est parce que nous sommes dans une société qui est en train de décroître et là où la perversité est en train de prendre de l'ampleur. Vous ne pouvez pas savoir à quel moment ce monsieur va faire entrer votre fille dans la chambre et fermer la porte. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, il est préférable que nous ne laissions plus nos enfants entrer dans la chambre d'un inconnu. Ou soit, si vous allez, il y a au moins 2-3 personnes, à la rigueur. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit mettre en place.
Éviter de prendre les cadeaux, beaucoup de choses. Mais déjà, est-ce que la famille a formellement saisi les autorités de sécurité, de justice vis-à-vis
des messieurs? Il faut dire que les enquêtes se poursuivent et même le ministère de l'Action sociale a effectué une visite auprès de la famille. Vu que le cas est un peu dramatique, le ministère n'a pas communiqué dessus. Et même la CNDH a sorti un communiqué et plusieurs organisations de la société civile appellent à ce qu'une sanction rigoureuse soit appliqué à l'individu.
Et le mis en cause physiquement,
il est aux arrêts actuellement.
Il semble que c'est un corps habillé, comme on dit communément.
Bon, ça, je n'ai pas l'information dessus. Mais je sais quand même que le monsieur est aux arrêts et la CNDH même a demandé à ce qu'une sanction rigoureuse soit appliquée pour décourager éventuellement toutes les personnes qui auraient ces velléités mal intentionnées là.
Michel, ça fait froid dans le dos quand nous voyons notre fillette de 9 ans dont un proche de la famille abuse jusqu'à la tuer. Michel.
Tu sais, au départ, quand j'ai appris l'histoire, c'est quelqu'un qui m'en parlait. Je pensais juste au lendemain de l'acte. C'est un conte ou bien c'est une réalité? Il me dit que non, c'est un truc. Lui, les gens ont couru et quand le monsieur était aux arrêts, les bruits ont couru et bon. Vous savez, ça, tu disais quelque chose ici, j'ai tiqué, qu'on va créer un sentiment de méfiance entre les tontons. Oui, il faut créer ça. Tu te rappelles, il y a un cas à la justice, il y a de cela 3 ou 4 ans, à Zongo. Agoué Zongo, c'était une fille de 11 ans et quelqu'un qui était dans le quartier qu'on connaissait bien, qui s'amusait avec la fille et tout ça là, et qui s'intéressait à l'enfant, il appelait même sa chérie, tout ça là. Et un jour, il a violé la fille.
Ouais. L'affaire Semléa Pacha de Aguayla, c'est quoi? C'est il trompait les enfants, les vendeuses, les petites filles là, c'est quoi? On les tendait des appâts, on les faisait des cadeaux comme ça jusqu'à un jour. C'est pourquoi dans votre quartier là, que soit garçon ou fille, il y a des comportements que vous devez refuser. Qu'on dise que vous êtes méchant, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Si ça peut aider à protéger votre enfant, qu'on dise que vous êtes méchant. C'est mieux comme ça. Vous voyez, il y a des comportements, ce climat de méfiance, il faut le créer. Il faut le créer. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, comme Jean le disait, c'est celui-là qui est dans votre cour tout le temps qui va vous créer une situation vraiment irréparable. Et donc, si tel est le cas, les parents, surtout les femmes qui sont peut-être le plus souvent à la maison, elles doivent redoubler de vigilance parce que celles ou ceux qui rentrent, qu'ils s'amusent avec les enfants, tout ça là, il nous faut, comme le disaient les Américains, avant ils avaient trois groupes dans leurs relations diplomatiques. Il y avait leurs ennemis, il y avait leurs amis et des gens avec qui...
Les autres.
Aujourd'hui, là, tout le monde, ils sont méfiés de tout le monde. Il n'y a pas, après le 20...
Le
11 septembre, là, il n'y a plus, pas question. Tout le monde, il n'y a plus d'amis, il n'y a rien. On surveille tout le monde. C'est comme ça qu'on va se comporter dans nos foyers. Il ne faut pas penser que celui-là ou celle-là, c'est le plus gentil des tontons, la plus gentille. Non, il faut ouvrir les yeux tous les jours. 24 sur 24 sur vos enfants.
Merci.
Sinon, vous allez attraper votre tête un jour, comme on le dit chez nous.
Alors que l'irréparable est déjà fait.
Ouais.
Pauvre fillette, vraiment, et toutes nos condoléances à la famille.
Et il faut saluer aussi la réaction du gouvernement, parce que, comme Jean le disait, j'ai appris aussi que la ministre de la promotion
de l'action sociale.
De l'action sociale était le dimanche dernier à la maison Montier pour vraiment présenter les condoléances du gouvernement à la famille éplorée. Je pense que ce n'est pas rien.
Merci. La famille qui a fait sa part en portant plainte contre le monsieur, la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, avec en tête la CNDH qui joue également leur partition, le gouvernement, en bon père de famille, va saluer l'enfant, mais et l'homme
se compte... et dans cette situation-là,
oui.
J'encourage, la société civile doit monter au créneau. Elle doit être ferme. Ce monsieur-là, il faut vraiment l'en finir avec lui. Parce que
on ne va pas en finir.
Non, ça dit, je veux dire que la loi doit.
Justement.
C'est parce que ce n'est pas nous, si c'est nous les journalistes, même avec, à 1h du matin. Allez, on réveille l'appareil de l'État. Non, ici, là, il faut que la sanction soit à la hauteur de l'acte posé pour décourager d'éventuels candidats.
Et l'homme, c'est ce que nous devons attendre. Hein, que la justice instruise cette affaire-là et nous situe vraiment sur la part de responsabilité dans ce crime dont nous parlons.
Non, je crois que ce qui s'est passé d'abord est choquant, très choquant. Vous savez, quand vous avez un enfant qui se retrouve dans cette situation et qui meurt dans ces conditions, où vous vous dites que le jour où le gars pointe le nez, vous allez le buter. Parce que, vous savez, c'est effarant. Vous ne pouvez pas perdre votre enfant dans ces conditions. C'est tout sauf inexplicable. Enfin, sauf explicable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ça à quelqu'un qui réfléchit normalement, quoi. On dit que, drogué... Mais d'abord, la fillette a 9 ans. Drogué, violé, jusqu'à mort sans suivre. Non, mais franchement, on voit ça dans les films d'horreur. Vous comprenez? Oui, franchement, parce que moi, déjà, quand on vous raconte le truc, mais vous avez froid dans le dos, parce que ça nous sort par les pores, en fait. C'est une histoire qui nous sort par les pores. C'est pourquoi dans les endroits où, ou bien dans les maisons, où peut-être il y a des colocataires qui appellent votre fille chérie, tu es là, votre fille de 5 ans, tout ça, voilà. C'est il faut interdire
ça. C'est fini.
Il faut interdire ça, franchement. Moi, c'est des propos que moi, je n'aime pas du tout.
Si je suis là, tu ne peux pas appeler comme ça ma fille.
Tu ne peux pas le faire.
Pourquoi tu as quoi avec
85 ans, comment ça dit? Chérie, tu es là, je viens de rentrer, tout ça. Mais il faut décourager ça. C'est des pratiques qu'il faut vraiment décourager. Ce n'est pas normal. Maintenant, il faut vraiment qu'on suive ce dossier de près pour savoir exactement la sanction qui sera appliquée à ce monsieur par la justice. Parce qu'il faut respecter la loi dans toute sa rigueur, comme Michel l'a dit, et que le code pénal s'applique. parce qu'on nous a tout le code pénal est public. Et ça dit qu'il faut que la façon dont, puisqu'on a drogué d'abord la fillette, d'abord c'est sur une mineure, ensuite on l'a droguée, et ensuite il y a viol. Ça fait quand même 3 infractions. Mineur
et mort à la fin.
Et mort à la fin, voilà, ça fait 4. Ça fait 4 infractions. Donc, je crois que, je ne sais pas, la peine
on
encourue
dans ce cas de figure. Et puis c'est fini.
Et, mais
il y a des moments où nous nous pinçons pour savoir si nous sommes encore des humains ou bien si nous devenons une autre espèce que Dieu n'a pas créée. Vivement que la justice fasse son travail.
Ça, c'est pour finir. Il y a aussi d'autres comportements comme ça, peut-être pas à la hauteur de ce que nous disons, mais que parfois les familles ont fait pression pour négocier ça. Il faut que les familles
réglées en amiable.
Il y a pas question d'amiable ici là. Il faut que les familles soient sensibles, vraiment que les gens comprennent que nous vivons une situation où il y a pour vraiment permettre une société pour nous permettre de vivre dans une société. Où le bon vivre, où la paix, le vivre ensemble soit, il faut éviter ces trucs de règlement à l'amiable là. Il faut dire aux familles de porter plainte lorsqu'il y a des situations comme ça.
Merci. Laisse-moi conclure avec ce que Michel dit. Okay. C'est que les gens ne savent pas. Quand on viole une mineure, mais c'est des dommages, des traumatismes que la fille va traîner jusqu'à
toute sa
vie. Et si les parents ne portent pas plainte pour qu'une prise en charge effective soit apportée à cette petite, mais elle aura des difficultés à se marier et elle va reproduire un même schéma sur ses enfants. Il va falloir que, comme il le dit, les familles portent plainte. Lorsqu'il y a une situation pareille, on ne gère pas l'amiable parce que c'est l'avenir de votre enfant que vous êtes en train d'hypothéquer en voulant gérer un truc en vase clos.
Je salue une amie fidèle auditrice du club La Presse, grande dame, mais qui vit ses traumatismes. Elle a été violée dans ses 2 ans par le beau-père, son beau-père, c'est-à-dire celui qui était le conjoint, le conjoint de sa mère.
Oui.
C'est lui qui l'avait violée quand elle avait 2 ans, et jusqu'à ce jour, la dame a des problèmes. Avançons avec cette longue page économie développement, mais commençons par ce qui orne la une de Le Messager et d'autres journaux, dont Togo Press, qui revient sur l'information. Alice Albright au Togo, c'est la directrice générale du MCC, le Millennium Challenge Corporation, qui a été reçue en audience par le chef de l'État, laquelle Albright a eu une séance de travail avec le gouvernement, la première ministre en tête et le secteur privé. Donc, ils ont parlé des 2 programmes du MCC, le programme Threshold, qui travaille sur le foncier et le numérique, et le programme Compact, qui vient d'être accordé au Togo et dont on attend également la matérialisation dans les temps à venir. Autre information portant toujours sur le chef de l'État, c'est Canal D qui nous l'apprend. Fornyasengbe qui a annoncé à Paris, au sommet du pacte financier mondial, une 50aine de 10 pays, dont une 20aine du Togo. Jean, est-ce qu'il a confirmé que Fornyasengbe a honoré cette rencontre de sa présence?
Je n'ai pas encore la confirmation, mais c'est juste l'information selon laquelle il y participerait que nous avons. Et c'est ce que nous avons traité dans la parution du jour.
Eh bien, c'est une initiative de la France. Il s'agit donc d'examiner d'autres canaux pour permettre aux pays africains de bénéficier de financement pour leur croissance économique.
Et pas seulement africains, c'est tous les pays les moins avancés.
Merci beaucoup. Nous continuons avec ce projet qu'on peut toucher du doigt. Il s'agit du projet Kamandama. Nous en parlons depuis quelques jours parce que on peut toucher et que ce projet peut apporter vraiment la lumière en majuscule et en minuscule à nos compatriotes du nord du Togo. Projet Kamandama, comme revient là-dessus le confrère Le Messager, ce projet qui est exécuté à 90,11%, la ministre déléguée de l'énergie, Madame Mila Asiablé, qui a fait visite du terrain et qui dit sa satisfaction. Ouara le vainqueur en parle aussi. C'est d'ailleurs le titre à la manchette de Ouara,
projet commandement, une exécution à 90,11%. La ministre Mila Adjiablé se dit satisfaite et ce projet qui va apporter vraiment la lumière dans le nord du Togo, comme l'écrit Canal D, bientôt la fin du calvaire dans la région des savanes. Michel, le projet commandement, qui va partir de Sokoré jusqu'à Dapon, jusqu'à Mandouri, c'est apporter l'énergie à temps réel aux populations du nord du Togo.
Oui, tu sais, là où passe la lumière, passe l'économie. Je pense que les autorités ont bien compris cela. Et vous savez que dans ce domaine, le gouvernement multiplie les efforts pour accroître le taux d'électrification dans notre pays. Et le gouvernement, à chaque fois, communique par rapport à ce qu'il est en train de faire dans ce domaine-là. Et tu l'as dit, Sokodé, Kara, Mango, Mandouri, ce sera des zones interconnectées. Et les travaux qui ont commencé depuis un temps avancent bien. En tout cas, selon la ministre Adjiablé, en charge de l'énergie, parce que si ces zones, si les travaux arrivent à terme, ça va être un gain qualitatif pour les populations, parce que ça va permettre de développer leur économie, ça va permettre aux populations de vivre mieux qu'avant, et c'est, en tout cas, on va dire que c'est une bonne chose pour eux. Après ce projet, je pense qu'il y a d'autres projets aussi qui vont suivre, selon ce que nous avons appris. Donc ça veut dire que dans ce domaine-là, le gouvernement ne ménage pas de ses efforts.
Merci. Pour, la ministre qui était sur le terrain avec le directeur adjoint de la CEB, Monsieur Damipi Nupoku, qui est lui-même ancien ministre de l'énergie. Les deux ont dit que ce projet va arriver à terme d'ici la fin de l'année.
Disons que ce monsieur est énergie.
Monsieur
on peut
énergie.
L'appeler énergie, puisque ça fait plus de 30 ans énergie. Que son nom ne sort pas dans nos bouches par rapport à l'énergie.
Donc tu viens de le baptiser. Oui,
c'est Monsieur Énergie.
Nupoku Damipi Énergie.
Oui.
Eh bien, Monsieur Énergie et Madame Énergie, on dit que le projet va être fini d'ici la fin de l'année et que la lumière sera vraiment dans tous les foyers. Jean, il faut juste rappeler que ce projet commandement vient s'ajouter à d'autres projets, hein, comme le projet CISO, qui porte beaucoup plus l'énergie solaire, et bien d'autres projets, les projets Tinga, qui apportent la lumière un peu partout. Vivement que cela soit bien exécuté et que le gouvernement réalise son agenda de taux d'électrification du Togo
tu à sais, 100% avant, d'ici 2030. Avant l'avènement de Faure Gnassingbé, en tout cas au pouvoir, je pense que le taux d'électricité était à 26%.
26%.
Oui, actuellement, c'est près plus de 50%, près de 60% déjà. Donc, ça veut dire que beaucoup d'efforts sont fournis dans ce domaine.
Oui, alors Jean, si le gouvernement met ses projets qui transportent la lumière haute, moyenne et basse tension partout dans le Togo d'ici 2030, il va falloir maintenant que la CET prenne le relais pour les connexions, pour les abonnements, et que ces phénomènes de toile d'araignée qui enlaidissent les villes disparaissent, que la CET se dote les moyens vraiment de satisfaire les Togolais d'un peu partout qui voudraient s'abonner au réseau de l'énergie électrique.
Oui, ça tu le dis en réalité, parce que au sud, surtout fondamentalement au niveau de Lomé, le problème est vraiment récurrent au niveau des branchements, parce que selon les informations, la demande est très forte, au point où la CET n'arrive même pas à satisfaire tout le monde. Mais il faut rappeler qu'au niveau du projet Kamadama, c'est une ligne de 310 km qui va quitter Kara plutôt, Mango, Dapaon et Mandouri. Et il y aura éventuellement trois. Et
j'espère que mes amis de Bassar seront également interconnectés.
Bon,
parce qu'il y a un auditeur qui a appelé la dernière fois de Bangeli, qui n'ont pas encore l'énergie qui fonctionne sur des groupes. Et qui ne fonctionne que 3 à 4 heures par jour.
Bon, ça doit être éventuellement possible, parce que vous rappelez que dans la zone septentrionale, notamment dans les savanes, l'énergie est fondamentalement dépendante du Ghana. Et avec le Ghana, c'est vraiment compliqué depuis au moins 2-3 ans. Et vous ne savez pas le bien fou que la population des savanes vont avoir en ayant l'énergie, parce que vous avez parfois des coupures, 3 à 4, 5 coupures par jour, qui font parfois plus d'une heure de temps, et beaucoup, beaucoup d'appareils grillés vraiment dans la région des savanes. Et c'est l'occasion vraiment de féliciter les efforts du gouvernement à travers ce projet Kamadama, qui va vraiment solutionner un grand problème énergétique dans la région des savanes. Et à travers les 3 postes qui vont être créés, les 3 villes auront un management flexible, c'est-à-dire que si aujourd'hui le poste de Mango a un souci, au niveau de Dapa, on pourrait être autonome. Si c'est Mandouri, on pourrait être autonome. Et si c'est également Mango, ça pourra l'être.
Merci. Nous prenons acte d'ici la fin de l'année. La fin est effective du projet Kamadama. Et puis, comment la CET va prendre le relais pour que ceux qui l'auront sollicité pourront obtenir les abonnements et que l'énergie soit 24 heures sur 24. Nous continuons avec les grandes entreprises du Togo qui sont retrouvées en assemblée générale élective. C'était même 2 assemblées. Elon Kossi, tu nous en parles. Nouvelle Tribune, c'est l'article à ta manchette. Assemblée générale mixte avec les grandes décisions dont tu nous parles. Mais l'une de ces grandes décisions, c'est déjà Jonas Daou qui a été reconduit à son poste de président.
Oui, l'Association des grandes entreprises du Togo a tenu son assemblée générale mixte, c'était le 19 juin dernier, dans un hôtel de la place.
Le 16 juin,
voilà, dans un hôtel de la place. Donc, une assemblée générale mixte, justement, parce qu'il fallait modifier certaines dispositions des statuts et règlements intérieurs en ce qui concerne les réunions par visioconférence, parce que ce n'était pas prévu. Avec Covid, beaucoup de choses ont changé. Et donc, il y a maintenant une possibilité, selon les tests, de pouvoir faire des réunions par visioconférence par rapport justement à l'agenda chargé des chefs d'entreprise. Et donc, la plus grande décision, c'est le renouvellement du bureau exécutif. Donc, M. Jonas Daou reste président pour un nouveau mandat, un second mandat, en tout cas, selon les tests. Et donc, le bureau exécutif initial, composé du président, du vice-président et du secrétaire général du trésorier général reste intact, puisque le vice-président reste toujours M. Charles Gaffon, le secrétaire général M. Jean-Marie Tessy de GT Assurance et le trésorier général M. Souleyman Touré de EcoBank Togo. Donc, en ce qui concerne les conseillers, il y a quelques petites modifications, comme justement le DG de BOA Togo, M. Ibrahim Youssef, qui entre en tant que conseiller de Banque Assurance. Il y a aussi, par exemple, Premier Bet, l'entreprise qui fait d'abord son adhésion à la JET, puisqu'il y a 8 nouvelles adhésions qui sont, 11 nouvelles patents adhésions qui sont signalées, dont celle de ISDI, du président José Simenou, et ensuite d'ASIS, qui est aussi devenu membre de la JET, et d'autres sociétés comme Simco, Diwa, et qui sont tous membres de la JET. Donc, le nouveau bureau exécutif est présenté à la page 3 dans notre article, et d'autres décisions, dispositions qui sont quand même qui ont été prises.
Félicitations et bonne chance à ce nouveau mandat de Jonas Daou. Il semble que tout ce qu'il touche devient de l'or. Hein. Qu'il réussisse, ce sera pour le bien de la croissance économique dans notre pays. Et on peut dire justement que c'est l'embellie pour les industries extractives. Vous rappelez, il y a quelques semaines, nous parlions de la suspension infligée à notre pays, à Lithieu, pour retard de production de rapports. Nous avons rappelé que ce tort a été réparé, et le Togo a soumis son fameux rapport, et le Togo réintègre depuis Lithieu. Focus Info paru aujourd'hui nous rappelle cela. Lithieu lève la sanction infligée au Togo. Et dans le même sens, Focus Info nous parle de la contribution des industries extractives qui a bondi de 64% en 3 ans. Et l'homme, la Nouvelle Tribune va justement dans ce sens avec la production de phosphate qui est en hausse de 5,9% et les ventes qui connaissent une hausse de 14% en un an.
Oui, c'est les chiffres qui ont été communiqués justement par rapport au secteur phosphatier du Togo. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour qu'on puisse justement faire des phosphates carbonatés, des engrais pour aider les agriculteurs. C'est un vieux projet, puisque entre-temps, il y avait une société, une compagnie internationale qui avait gagné l'appel d'offres. Maintenant, c'est une autre compagnie qui va se positionner. Donc, les phosphates togolais ne sont pas encore, n'ont pas encore dit leur dernier mot, parce que à un moment donné, on n'en entendait plus parler, à cause des scandales aussi qui se sont suivis dans le secteur, de ce secteur d'industrie extractive, parce qu'il y a plein de scandales avec les ressources humaines qui n'étaient pas du tout au point, et ensuite les recettes qui n'étaient pas vraiment des recettes déclarées objectivement selon plein de d'enquêtes et de rapports. Donc aujourd'hui, les phosphates togolais portent mieux, en tout cas pour selon les ventes et puis les chiffres qui ont été communiqués, ça va dans le secteur.
Mais en tout cas, c'est des informations que la Nouvelle Tribune nous donne, qu'on peut lire. La production qui a connu une augmentation de 5,9% pour atteindre le chiffre de 1,541,772 tonnes pour la production. La vente également est passée de 1,386,811 tonnes à 1,583,180 tonnes. Et la vente n'a pas seulement connu une augmentation en volume, mais également pour la valeur, parce que le prix du phosphate a connu une augmentation exceptionnelle de 116% sur les prix mondiaux. Ça veut dire que c'est une belle enveloppe que la SNPT vient de récolter pour l'année 2022.
Oui, on peut le dire parce que justement, vous savez, avec Covid, le secteur du commerce international s'est fait beaucoup un peu de sous. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de conséquences fâcheuses sur les entreprises, mais il y a eu des secteurs qui plutôt se sont vus développer et qui ont fait de très bons chiffres. Par exemple, le secteur de la logistique et le secteur des industries extractives. Donc, c'est une belle enveloppe que la SNPT vient de récolter. Mais attendons de voir. On ne sait pas exactement aujourd'hui ce qui va se dire. Mais vous savez, d'habitude, c'est au niveau du budget de l'État N+1, enfin, qui arrive, qu'on sent véritablement l'apport de ces industries extractives dans l'économie, parce qu'elles ne communiquent jamais leur bilan, leurs chiffres, et même pas de rapport annuel à rien.
Espérons qu'ils vont démentir cela et qu'à la fin de l'année, qu'on sache effectivement à quelle hauteur la SNPT contribue au budget du Togo pour l'année à venir. Les phosphates qui ont décidément le vent en poupe, parce que ton article rappelle cet ensemble d'accords qui a été signé récemment, c'était en mai 2023 avec l'Office chérifien des phosphates pour l'implantation d'une usine d'engrais ici au pays. Une autre société de Singapour qui devrait aussi lancer bientôt la production d'une usine qui va produire également des engrais NPK sur la plateforme industrielle d'Antikopé jusqu'à une production de 200 000 tonnes. Vivement que ces chiffres-là passent de la théorie à la réalité que tous les Togolais pourront vraiment toucher.
C'est Michel. Important. Non, justement, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que il faut en parler, mais il ne faut pas célébrer ça trop. Mm-hmm. Nous allons attendre. Oui. Et quand ce sera réalisé, nous allons applaudir, à nous rompre même les phalanges.
Nous-mêmes.
Sinon, pour le moment, ce n'est que des projets. Il faut vraiment que ça soit concrétisé un jour ou l'autre. C'est en ce moment-là, on va vraiment gongonner, quoi.
Merci beaucoup. On peut compter sur Michel et voir les vainqueurs de gongonner quand ces usines seront effectivement inaugurées et qu'elles vont produire effectivement ces chiffres annoncés. Continue avec une production également qui est en hausse, c'est la production vivrière. Et c'est Focus Info qui nous en parle à la page 7. La production vivrière, toujours en hausse. Et qu'on parle des céréales, on doit aussi parler du soja. Donc Focus Info écrit que l'objectif à l'horizon 2008, ces deux produits, jusqu'à 500 000 tonnes de soja. Or, nous savons que le soja défraie la chronique depuis quelque temps Et le triangle des enjeux revient là-dessus en parlant de la filière soja, un cafouillage monstre qui n'émeut guère le gouvernement. Voilà, ça fait longtemps que les producteurs se plaignent. Ceux qui sont dans le négoce en parlent. Nous, les médias, nous relayons, mais jusqu'à ce jour, et le ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture font croire comme si circuler, il n'y a rien à signaler, alors que les acteurs de ce secteur continuent toujours à se plaindre. Peut-être qu'un jour, il plaira à ces deux ministres de sortir de leur tour d'ivoire et d'éclairer l'opinion. Parce que, Michel, il faut le rappeler, la gouvernance démocratique demande également que les autorités rendent compte, ne serait-ce que informent l'opinion sur des sujets qui les préoccupent.
Là, c'est difficile parce que, bon, je le dis souvent, bon, ça fait rire certains. Pratiquement tout est secret défense chez nous ici. Parce que ce que on doit normalement envoyer comme message à la population pour l'aider à mieux comprendre comment la gouvernance se fait, il y en a qui le font, d'autres non. Donc, le plus souvent, nous-mêmes, les médias, bon, c'est nous, on se bat pour savoir qu'est-ce qu'on fait, pour chercher qu'est-ce qu'on fait ici, alors que, bon, ceux qui sont là-bas, c'est leur devoir de parler, d'expliquer ce qu'ils sont.
On nous dit ce qu'ils font.
Ce qu'ils sont comment en train de faire, et comment ça se fait, et ce qu'ils vont faire demain. Hein? Normalement, un ministre, avant d'aller, il doit passer par une radio d'abord, pour dire ce qui se passe. Mais bon...
Maintenant, les médias demandent à prendre contact, à solliciter une audience pour rencontrer, c'est toujours la loi de l'Omerta.
Oui, donc bon, quand c'est comme ça, vous parlez de soja. Il y a quelques années, l'affaire de soja, là, les gens se débrouillaient sans que personne ne soit informé. Ça se passait, en tout cas, sans que les gens, les commerçants ne crient au scandale, comme quoi il y a tel discuté. Mais il y a quelques années, il y a de grosses baleines qui sont arrivées dans le secteur. Et donc, quand c'est comme ça, vous voyez, comprenez, allez-y comprendre. Donc, c'est tout.
Merci beaucoup. Autre filière qui est en croissance, mais qui n'arrive toujours pas à satisfaire le marché, c'est la filière pêche. Et Magloire Flambeau nous apprend que malgré la croissance, les poissons coûtent toujours cher sur nos marchés.
Oui, je crois quand même que c'était un constat partagé par tout le monde. Vous faites une petite descente dans les marchés, vous constaterez que les poissons coûtent extrêmement cher maintenant. Hein. Partant de Deuvi à Diado, en passant par Akpala et puis Salomon. Je parle en termes clairs pour que tout le monde puisse comprendre. Beaucoup de femmes vous diront véritablement que ça coûte extrêmement cher. Et même des hommes qui sont si curieux, qui aiment toucher du doigt les réalités, vous diront également la même chose.
Mais tu as oublié les célibataires qui sont obligés d'aller au
marché. Les comme célibataires mangent.
Comme toi.
Ah, c'est ce que vous oubliez, les célibataires mangent, ils préparent. Et donc, c'est un constat unanimement partagé. Mais la question qui se pose, c'est que... on ne peut pas comprendre que selon les projections qui sont faites, selon les données, les statistiques officielles que le ministère même de la sécurité, enfin de l'économie maritime donne, les signaux sont ouverts pratiquement depuis 2021, on va le dire ainsi. Quand on prend par exemple la quantité de poissons pêchés en 2021, on est à plus de 6 millions de kilos, ce qui fait par rapport à l'année 2021, une majoration de plus de 50%. Ça voudra dire qu'en réalité, la moisson, elle est bonne. Et si on veut faire la logique, ça voudra dire que cette recette-là, la moisson qui est très bonne, ça devrait être suffisant, ne serait-ce que pour satisfaire les besoins. Alors, on ne peut pas comprendre, Michel le dit tantôt, que souvent, quand on prend la théorie, c'est tout beau, c'est tout joli, mais en réalité, ce qu'on constate sur le terrain, ça ne rime pas vraiment avec ce qui est sur le papier en tant que projection. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il était important de relever cet aspect de la chose pour dire il est bien bon que dans les projections, dans les théories, qu'on ait de bons chiffres, mais ce serait encore meilleur, sinon mieux, que dans les réalités, on sent véritablement ces chiffres pompeux là qu'on nous en a. Parce que, par exemple, vous prenez les poissons qui coûtaient peut-être 1300 ou 1500, aujourd'hui se vendent carrément à plus de 3000 francs. Hein, et comment se fait-il que le Togolais peut véritablement se sentir à l'aise dans ce contexte? C'est pourquoi toujours est-il que quand on le dit, il y a toujours une exhortation derrière vis-à-vis, n'est-ce pas, des pouvoirs publics pour essayer de juguler au mieux la situation pour permettre aux gens de respirer.
C'est très simple, la production de la pêche est en augmentation, mais ça n'arrive pas encore à couvrir les besoins du marché. On va, il y a des solutions également que nous recherchons par la pisciculture, avec notamment l'IFAD de la Vagnon. Le chef de l'État s'est déplacé en personne pour célébrer les premiers lauréats de cette IFAD. Vivement que l'État mette les moyens à disposition, eux-mêmes innovent pour compléter par la pisciculture ce que nous pêchons des cours d'eau. Oui, Michel?
Je trouve que c'est pas normal que le poisson soit cher comme ça dans un pays comme le nôtre. Je ne comprends pas. Hein. Bon, peut-être les spécialistes agricoles peut-être pourront nous expliquer ce que c'est. Sinon, moi j'ai un ami burkinabé qui m'a dit que mais lui il est surpris quand il vient ici le poisson que lui mange lui est moins cher que le poisson togolais.
Le poisson du Burkina voilà. Coûte moins cher qu'ici.
Je dis comment vous avez vos poulets biscuits là-bas, mais comment vous avez le poisson? Il dit non, que le poisson coûte moins cher. Je dis non. Mais bon, il a tout fait pour me convaincre que le poisson chez eux est moins cher qu'ici. Et bon, je n'ai pas compris cela. Un pays côtier comme le nôtre, avec tout ce que nous avons comme
avec des cours d'eau
et tout, et que le poisson coûte très cher, parce que lorsque vous allez acheter le poisson, je pense que Magua qui le disait, ce qu'on achetait à 1500 il y a de cela 2 ans, aujourd'hui c'est 3000, donc bon, le kilo quoi. On se demande mais comment ça se passe comme ça. Donc ceux qui sont en train de faire la production dans ce domaine là vraiment ils doivent redoubler d'efforts pour faire en sorte que non seulement la production soit beaucoup plus grande pour en tout cas permettre à un plus grand nombre de Togolais de consommer, mais que le coût soit revu à la baisse.
Merci. Oui, Oulo. Non,
juste apporter un complément, c'est-à-dire que depuis le début de la Covid et renforcé avec la guerre en Ukraine, quand vous approchez, on vous dit non, que c'est à partir de là que tout a commencé par devenir cher. Et comme il l'a dit, rien ne redescend plus. Les choses ne font que s'empirer. Et quand on a parlé de poisson, mais je vous dis, quand vous remettez l'argent à votre femme pour aller au marché, on vous ramène des languettes de poisson, vous vous demandez, ben, est-ce que c'est véritablement ce que j'ai remis ou bien tu as fait quelque chose à côté? Mais quand tu te présentes, tu te rends compte que véritablement, comme Magloire et Michel ont dit, le poisson est devenu vraiment cher. Et comme on le dit, nous sommes un pays côtier. Pourquoi cela en est ainsi? Je n'ai pas véritablement la réponse. Mais est-il dit que... Je me dis que éventuellement la guerre en Ukraine en est pour quelque chose, parce que c'est aujourd'hui devenu la chanson sur la bouche de tout le monde. Quand tu viens acheter, tu dis que non, il y a la guerre en Ukraine, il y a ceci, il y a cela. Moi, je dis véritablement que également ces gens-là arrivent à s'entendre pour qu'on en finisse avec cette guerre, parce que on n'en peut plus.
On n'en peut plus. Même au port ici, au port de pêche, même les pêcheurs se plaignent. Hein, nos eaux, hein, les eaux togolaises deviennent de plus en plus pauvres. Peut-être parce que d'autres pays avec des moyens autrement plus sophistiqués viennent pêcher dans nos eaux.
Mais il y a aussi un aspect. Jean, je pense que nous devons faire extrêmement attention. On ne doit pas avaler ça comme ça. Il y a la guerre. Non, il y a des choses. Il y a de l'escroquerie aussi qui s'installe dans certains domaines parce que les gens veulent vraiment abuser de notre naïveté, mais ils avancent là et bon, ils vendent des choses très chères. Bon, attends, les mangues qui sont là, qui produisent toujours des mangues, les mangues deviennent chères parce qu'il y a guerre en Ukraine. Non, Donc il faut que nous soyons vigilants. On ne peut pas nous faire croire.
Je dirais que les banquiers souffrent du dérèglement climatique, de la pluviométrie, et puis nous plantons de moins en moins de manguiers. Ceux qui plantaient des manguiers viennent faire zémillant les petits boulots ici en ville. Ça aussi, c'est une réalité que toi et moi nous connaissons. Mais nous continuons avec quelques informations brèves. Eh bien, nous savons, tout ce que nous sommes en année électorale, nous venons de... nous sommes encore dans le recensement. Est-ce que c'est fini? Ou bien est-ce que le fameux rattrapage dans la zone 1 sera fait? On ne sait pas encore. Mais en confidentiel, Flambeau nous dirige vers le couplage des élections législatives avec les élections régionales. Magloire?
Oui, ça, je crois que beaucoup d'entre nous se demandent. Jusqu'à la semaine dernière, nous étions sur ce plateau. Michel notamment demandait, mais... quand est-ce qu'on va avancer les dates des élections? C'est-à-dire donc que beaucoup étaient dans l'attente. On sait qu'on ira.
Sont toujours
dans l'attente. On sait qu'on fera les élections législatives et les élections régionales. Mais jusque-là, à 6 mois de décembre, on n'a aucune idée, n'est-ce pas, du calendrier. Et cela nous a amené à creuser beaucoup plus. Et il nous est revenu que probablement. On tend vers le couplage de ces deux élections, et surtout que il y a la présidentielle aussi qui vient derrière, et donc pour les pouvoirs publics, vraisemblablement, coupler les deux élections sera la meilleure approche pour gagner en temps et en argent également, parce que le Togo finance ses élections sur fonds propres depuis quelques années. Et pour ce qui est de la date, il nous revient également que ce serait probablement en janvier 2024. Que les Togolais iront voter les prochains députés et puis les prochains conseillers régionaux.
Donc ce serait plus en 2023.
Selon toute vraisemblance.
Alors on serait en train de glisser.
Exactement.
Vers début d'année 2024.
Avec le couplage des régionales.
Avec les régionales.
Voilà.
Ok, je rappelle que nous parlons doublement au conditionnel. Ouais.
Bon, en réalité,
oui, et l'homme?
L'information relative au couplage des élections, c'était évident parce que justement, c'est une question de siège, les législatives et les régionales. Et si nous organisons sur fonds propres, je ne vois pas pourquoi on va faire les législatives à part, les régionales à part, apparemment qu'on sait que c'est une affaire de siège. Et que la même circonscription électorale, c'est la préfecture, ça ne change pas. Donc, ça va de soi que le gouvernement puisse les coupler. Mais le fait de les découpler serait une erreur monumentale parce qu'on n'a pas de ressources
selon
financières
toi.
Pour ça, selon moi. Donc, aujourd'hui, la date, comme on l'a dit la dernière fois sur ce plateau, on ne peut pas faire des incantations. On nous a dit, dans un premier temps, 2023, on était en 2022. En début d'année, on nous a dit vers fin 2023. Et puis dans la deuxième moitié de l'année, enfin on est toujours dans la première moitié de l'année, et on nous dit, selon les informations, 2024. Bon, finalement, pendant ce temps, le mandat des députés expire quand? Juillet, je pense que c'est...
Ça doit être août.
Août 2023. Août 2023. Donc ça veut dire qu'on va faire septembre, octobre, novembre, décembre. Le Parlement reste en place.
Rallonge.
Jusqu'à... l'élection de nouveaux députés.
Ouais.
Mais je pense que cette façon de faire aussi, ce n'est pas bien pour nos institutions. Du moment où le mandat de quelqu'un qui est en fonction à la tête d'une institution, bien dans une institution, prend fin, il faut préparer en même temps sa succession. Parce que on voit beaucoup d'institutions de la République aujourd'hui qui sont dans le même cas. Le mandat a expiré depuis, mais les personnes sont là. Franchement, il va falloir qu'on trouve une solution.
C'est une information conditionnelle de Flambeau.
Oui, moi aussi, j'ai...
c'est conditionnel.
Non, j'ai eu vent de cela. Pas plus qu'hier, même avant d'aller à la rédaction. Mais je n'ai pas voulu en parler parce que ça ne me préoccupe pas tellement. Parce que je ne peux pas continuer par supputer. Je veux, puisque c'est... Ça fait le calendrier républicain comporte tout ça là. On doit nous dire. Donc, je ne peux pas me permettre de faire des salam alaikum pour. Non, je ne peux pas le faire. Il faut que ça soit clair. Pas plus qu'hier, avant d'aller à la rédaction, un confrère m'en parlait et que lui, il aurait appris que je dis bon, il faut laisser ça. Vous voyez? Ce n'est pas, nous sommes coutumiers de ce genre de situation. Vous vous rappelez les élections 2013. Les législatives 2013, c'était en novembre 2012 que ça devait se faire. On a glissé. Mais ce qui est un peu surprenant maintenant, c'est que vous voyez pratiquement toutes les institutions, la HAC, la CNDH,
la Cour des comptes,
la policia,
Vous voyez, la puce, on a changé la tête, mais tout le corps, tout le corps reste.
Oui, tout le corps reste. Bon, maintenant, toutes ces choses sont en stand-by. Maintenant, l'Assemblée, si telle est que nous allons faire les élections là en 2024, les législatives bien sûr, ça veut dire que l'Assemblée nationale vient aussi s'ajouter à ce lot de ça c'est quoi? Personne ne comprend cela.
Il faut ajouter également la Cour constitutionnelle.
Parce que les institutions là, on enseigne les enfants à l'école. Que quand un député est élu, il fait 5 ans, il part. Ou bien il est reconduit. Vous comprenez? Et il fait 10 ans. Bon, maintenant là, ça là, comment on peut expliquer ça encore à l'enfant que bon, il a pu arriver que le député reste comme ça. Voilà. Donc, on doit, les enfants doivent apprendre en regardant, en voyant en même temps. Mais quand c'est comme ça, ça ne fait pas du bonheur pour nous tous.
Merci. C'est une situation vraiment embarrassante. Et pour ne rien arranger, avec le décès de Abdou Assouman, c'est la Cour constitutionnelle qui tombe même, elle aussi, en difficulté. D'abord, au lieu de 9, ils étaient 7. Maintenant, le président vient de décéder.
Il reste 6.
Alors, est-ce que le Fon Yansingbe va nommer un nouveau président à la Cour constitutionnelle et puis on y va? Ou bien il faut compléter. Si Lucien Diosoumessan était là, il nous parlerait sûrement de certains Nambrouyamini. Mais nous allons sûrement trouver la solution. En tout cas, un autre pays qui a attendu un peu, mais qui a eu le courage d'avancer le dimanche dernier avec son référendum constitutionnel, c'est le Mali, dont Canal D écrit « Référendum pour une nouvelle constitution, Goïta avance ».
Oui, vous savez, le Mali, depuis le départ des troupes françaises, s'est résolument engagé à prendre son envol, advienne que pourra, et c'est dans cette dynamique que les nouvelles autorités de la transition sont, notamment à travers, au début, les assises nationales, qui ont permis véritablement que les populations à la base puissent échanger avec les nouvelles autorités sur les tenants et les aboutissants d'une nouvelle constitution. Et c'est ce qui est chose faite depuis dimanche dernier, où le peuple malien est parti se prononcer pour un oui ou un non pour la nouvelle constitution que proposent les autorités maliennes. Et nous attendons toujours les résultats qui vont tomber d'ici vendredi. Mais pour nous, c'est l'occasion de dire quand même que Goïta avance, advienne que pourra, malgré les vents et marées, malgré que les ennemis de la République du Mali se sont acharnés contre ce pays. Les gens ont longtemps parlé de légitimité de ce monsieur, mais quelle légitimité faut-il demander à un monsieur qui a, lorsqu'il appelle les gens dans la rue sort massivement? C'est autant de questions qu'on se pose. Et véritablement, enclencher, c'est-à-dire demander une nouvelle constitution, c'est un courage que vraiment ce pays a eu, parce que nos constitutions en Afrique sont véritablement des copies pâles de la constitution française. Il faut véritablement qu'aujourd'hui, nos constitutions prennent en réalité nos réalités quotidiennes, au fait, c'est ça. Et la nouvelle constitution du Mali prend en compte un peu ça avec la réaffirmation de la laïcité, les renforcements du pouvoir du président, les chefs traditionnels qui sont mis également au centre de cette constitution parce qu'ils ont un poids au niveau du Mali. Je crois que véritablement, il faut que nos pays, nous réfléchissions véritablement à de nouvelles constitutions et qu'on puisse se départir véritablement du colonisateur. C'est vrai que nous avons été colonisés, on a eu quelques rudiments, mais aujourd'hui, il faut que nous prenions notre envol, et le Mali est en train de montrer la voie royale à tous les pays, fondamentalement dans le précaré français.
Il faut le préciser. Dans ce référendum qui a eu lieu, on attend encore les résultats, mais hier déjà, on a appris que le taux de participation serait autour de 38%. On verra les résultats d'ici la fin de la semaine, et puis on verra quand également le Burkina Faso et la Guinée vont également aller à leurs différents référendums. Oui, Michel?
Ah oui, je pense que ils iront. Ils le feront aussi, comme le Mali. Je trouve que les Maliens ont un courage extrême. Et ce courage-là doit inspirer beaucoup de peuples en Afrique. Parce que on ne peut pas chercher à se développer. Vous savez, il y a un critère, il y a quatre critères de développement d'un pays. Et selon le PNUD, si on vous donne seulement à manger là, vous, vous n'êtes pas développé. Hein. C'est-à-dire si on vous donne...
C'est pas seulement le plus... Même dans nos familles.
Donc, lorsque...
Le garçon ou la fille qu'on nourrit
voilà.
éternellement...
C'est que vous-même, vous vous prenez en charge.
Oui.
Hein, votre développement émane de vous-même. Peu importe les aides qu'on vous apporte, c'est là où on peut parler de développement. Et le Mali est en train de se dire que nous pouvons, à partir de ce que nous sommes, avancer. Il disait, Jean parlait de la plupart de nos constitutions là. En 92, ceux qui l'ont venu de France là, c'est la constitution française, ils ont pris, ils ont enlevé certains partis collés, nous donner ici. C'est la plupart des pays francophones, c'est comme ça. Même jusqu'à, ils ont copié jusqu'au conseil des ministres mercredi. Pourquoi nous, on ne peut pas faire conseil des ministres un lundi? Pourquoi? Pourquoi nous, on peut décider que le conseil des ministres est un lundi? Dans les pays précarés français, vous regardez les conseils des ministres, c'est le mercredi. Hein? Pourquoi?
Comme la France.
Comme la France. Donc, on peut décider, nous, c'est vendredi. C'est comme ça. C'est pourquoi,
ou même vois, samedi.
C'est pourquoi, parfois c'est jeudi, parfois c'est lundi, mais ça me plaît.
Merci, pourquoi merci, ça doit être, merci beaucoup, Michel. Alors, cette information que me donne Flambeau, pour nous rappeler que nous sommes toujours dans la saison du reboisement. Il s'agit de l'association Terreau Fertile qui, le week-end dernier, est allée mettre en terre 450 plants autour de Thiévier, dans le Zior. C'est pour rappeler que la saison, la campagne de reboisement court toute l'année, surtout avec la saison des pluies qui vient de démarrer au nord. Donc, il faudra que nous continuions à planter des arbres jusqu'à la fin de l'année pour atteindre les chiffres fixés par le gouvernement. Et puis, nous voulons terminer par cette information qui émane de la Fédération Togolaise de Volleyball. Vous avez certainement appris que l'équipe nationale du Togo de beach volley devrait participer au deuxième jeu africain de plage. Eh bien, des milieux proches de la Fédération, nous apprenons que l'équipe nationale de beach volley, composé de 6 joueurs accompagnés de leur sélectionneur, s'est envolé le 20 juin 2023 pour Abidjan, d'où elle devrait poursuivre son voyage pour la Tunisie. Or, les autorités sportives togolaises ont finalement demandé que l'équipe ne continue plus le voyage sur Tunis et qu'elle revienne à Lomé. Donc, sachez que l'équipe nationale de beach volley, finalement, ne va plus aller participer à ces jeux à Tunis, mais vont regagner Lomé sur décision donc de qui vous savez. C'est la pause.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Eh bien, après la pause, nous revenons pour nous connecter avec vous sur les deux numéros, le 22 21 33 74, le 91 36 63 75. Nous vous écoutons, vos questions, vos réactions sur les sujets que nous avons abordés. Un premier auditeur qui s'annonce. Ok, je rappelle que nous avons parlé de nos martyrs, nous avons parlé de le cas de cette fillette droguée, violée et tuée avec la justice que de bonne volonté réclame. On a fait le tour des productions agricoles et de la pêche et consorts. Auditeur en ligne, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Oui. Comment allez-vous?
Ça va, c'est monsieur?
C'est Karim le taximan.
Karim le taximan, nous vous écoutons.
Je salue tous les invités.
Merci.
À chaque fois quand vous parlez de soja, moi, au fait, ça me touche des fois. Je vous ai dit l'autre fois que j'ai 4 sacs de soja actuellement qui existent à la préfecture de Haron.
Mm-hmm.
J'ai l'objet de samedi passé, j'ai donné 200 cas à un ami qui a envoyé ça au Ghana, qui va aller vendre avant de ramener l'argent.
Ah, là, vous faites un peu de la contrebande, de l'ami Karim.
Oui, parce que tu vas le vendre où ici? Avec quel prix? Qui va acheter? Il y en a plein dans la chambre des gens, personne n'achète. Au début, ils venaient dans notre village, ils ne faisaient que nous appeler au téléphone. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Les gens qui nous appelaient, les gens qui venaient au village, on ne les voit plus. C'est coton, maintenant ils ont mis sur la tête. Mais c'est pas bien. C'est pas bien, on demande pardon le gouvernement. Nous sommes des êtres humains dans ce pays. On se débrouille, on cultive les champs. Venez nous donner de l'argent et prenez vos soldats et vous laissez ça avec nous. On va faire quoi avec ça? C'est du wangas, on va faire avec.
Merci beaucoup, Karim. Beaucoup de courage. Continuez à garder la foi. Un deuxième auditeur. Oui, ce cri de cœur de Karim. Et Karim doit parler sûrement au nom de centaines, voire de milliers de Togolais. Espérons que leurs cris vont émouvoir enfin les autorités de notre pays. Auditeur en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Johannes.
Oui, allez-y.
Vous avez dit, on connaît la personne qui a rappelé les journaux. Moi, je ne connais pas.
J'ai dit que c'est les autorités sportives du Togo qui ont demandé à la fédération, à la délégation du beach volley de rebrousser chemin, de regagner le bercail.
Donc, on doit comprendre par là que ça vient directement de la ministre des Sports.
J'ai dit autorités sportives du Togo, l'ami Johannes.
Bon, ça, si vous dites ça, c'est encore plus vague pour nous. Moi, c'est sur ce sujet-là que je vais intervenir. C'est pourquoi je demande les précisions.
Ok. Je vous donne l'information telle que nous l'avons reçue des sources de la Fédération Togolaise de Volleyball.
Ok. Bon, de toute façon, moi, j'aimerais dire quoi. Avant qu'on apprenne ça aujourd'hui, on savait qu'il y avait un souci côté financier pour que ces joueurs puissent participer à ce championnat.
Mm-hmm.
Le problème du Togo, on met trop le football devant. Si on voit ce que ces six joueurs allaient coûter à l'État togolais, peut-être que dans le domaine du football, ça correspondrait peut-être aux primes de 2 joueurs sur 11. Peut-être même, parfois même un joueur. Quand on parle de football, on ne manque jamais d'argent.
Non, Johannes, s'il vous plaît, il n'est pas avéré que c'est pour souci financier.
C'est pourquoi je dis, avant que vous on apprenne l'information aujourd'hui, on a déjà appris des informations par rapport à leur participation.
Et ce serait pour cause d'argent?
Oui, il y avait des soucis. Je disais qu'il y avait des soucis d'argent. Voilà, par rapport à leur déplacement, même à leur prime. Voilà, il y avait ces soucis-là. Donc, il ne faut pas qu'on consacre tout l'argent. Un seul joueur vient pour le football. On déverse des millions pour un seul joueur. Ça, un seul joueur. Ce qu'un joueur prend en football, ça pourrait aider une seule équipe, une équipe tout entière dans d'autres domaines.
Non, Johannes, vous permettez, d'après certaines indiscrétions, il semblerait plutôt que c'est des problèmes d'accréditation qui n'auraient pas été réglés avec l'organisation de ces Jeux de Tunis. En fait, c'est les sources que nous, les indiscrétions que nous avons. Si c'était question d'argent, nos amis ne seraient pas partis de Lomé pour aller à Abidjan avant de rebrousser chemin. On a acheté les billets d'avion à toute la délégation, réservation tout. Pour indiscrétion, c'est peut-être des problèmes que la délégation togolaise n'aurait pas obtenu son accréditation à Tunis.
Ok, là c'est bien compris. Okay. J'ai voulu quand même profiter de l'information pour faire cette parenthèse-là, parce que ça se passe souvent avec les autres sports.
Merci Johannes.
Merci.
Merci. Le suivant en ligne. Le troisième auditeur de ce jour, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Ali.
Ali.
Oui, notre ami Karim a fait des prêts et a cultivé soja.
Mm-hmm.
L'autorité qui doit l'accompagner ne dit rien sur ce qui va se passer. Il trouve un moyen pour vendre son produit. Vous lui parlez de contrebande. Et l'autorité qui est fondée à parler et qui a retenu l'information, comment vous le qualifiez? C'est ce qu'ils sont en train de faire, et par moment même sur le plan droit de l'homme politique, des institutions internationales, supranationales, prennent des décisions, le Togo n'exécute pas, le Togo ne prend pas en compte, et on nous appelle sur RFI un État voyou. C'est ça? Donc il faut être dans les normes. Celui qui doit sortir l'information n'a pas sorti l'information. Mais ça montre qu'ils ne sont pas là pour la population, ils sont là pour satisfaire seulement leurs besoins. Et tout ça là, c'est le président Fonia Singbe qui arrose ça avec l'impunité, c'est lui qui cautionne ce désordre. Il faut être clair dans la tête.
Merci.
S'il ne peut pas diriger le Togo, il n'a qu'à nous dire qu'il ne peut pas diriger le Togo.
Allez, vous rappelez combien de fois nous avons interpellé les autorités en charge de l'agriculture et du commerce de faire la lumière sur la filière soja. Mais pour notre ami Karim, que je connais bien, qui est un ami personnel, je réitère que quand on sort un produit par des voies illégales et qu'on va en vendre ailleurs dans un pays étranger, Ça s'appelle de la contrebande. Dieu merci, il n'a pas été arrêté aux frontières, sinon il aurait eu des problèmes. L'auditeur suivant. Oui, bonjour.
Oui, sa sœur.
Oui.
Je suis Kofi, je vous appelle de Didjolé.
Nous vous écoutons, l'ami Kofi.
Oui, moi, mon intervention est autre que tout ce que vous avez dit sur le plateau là-bas. C'est par rapport à la TDE qui fait des trous partout, partout, partout sur les rues.
Mm-hmm.
À Didjolé, on n'en parle plus en temps. On avait crié, ils sont venus fermer un peu. Maintenant, quand vous arrivez au rond-point de Assiyeye, la rue, la bretelle qui relie plutôt le grand contournement. Ils ont fait un grand trou là-bas, ça fait déjà plus d'un mois qu'ils ont laissé. Le matin, quand vous arrivez là-bas, il y a un embouteillage monstre.
Vous parlez de Assiyeye, Agoya-Assiyeye?
Oui, Agoya-Assiyeye.
Oui.
Quand vous arrivez là-bas le matin, vous ne pouvez pas passer. Il y a un embouteillage monstre. Bon, ils ont balisé la partie où ils ont travaillé et puis ils ont laissé. C'est ce qu'ils ont fait. Et au niveau de Didjolé, au niveau en face de l'école Gakli, le trou là, il fait 2 ans là-bas. Bon, je me demande, la TDE, elle, quand elle fait ses réparations, est-ce qu'elle ne peut pas prendre des dispositions pour fermer, pour boucher ce qu'ils ont fait? Elle est là quand il y a des travaux, au lieu de faire les travaux de réparation en même temps, cette route là, elle est neuve. C'est un nouveau travail qui a été fait. Ils viennent, ils font les trous dedans. Maintenant, ils vont fragiliser la couche de base et puis la route va se gâter comme ça. Et personne ne dit rien.
J'espère que le directeur général de la TDE ou son chargé de la communication, en tout cas quelqu'un, va écouter l'ami Kofi et va l'en informer. Merci quand même pour cette information. Le suivant, bonjour.
Allô.
Oui.
Bonjour.
Et si?
Arrivé à un moment donné, on s'est dit qu'on va plus appeler, mais bon, c'est vraiment... Est-ce que, je vais vous demander là-bas, là, est-ce qu'on gouverne un pays par l'adage, les chiens aboient, la caravane passe? Est-ce qu'on gouverne un pays ainsi, par ruse, par tout ce qu'on veut, quoi? La perversion. Jusqu'à, on en arrive dans cet état-là. Hein? Tout est méli-mélo. Et l'OPT, tout est vendu, les banques, tout est bradé. On gouverne la République comme une épicerie et tout le reste. Et puis, on est en train de périr tout doucement, quoi. Ça ne fait ni chaud ni froid dans le dos des gouvernants. Pour affirmer, quoi. Hein? Comment vous le comprenez? Oh, personne ne porte plainte, les politiques. Porter plainte chez leur justice. C'est la justice qui leur appartient. Allez porter plainte là-bas.
Mais ici?
Oui.
Vous-même, quand vous êtes tombé au niveau de Minamadou,
vous ai conseillé de...
Ah, vous avez porté plainte?
Ça va suivre son cours.
Ok. Ok.
Allez porter plainte, quoi. Pour qu'on soit... On est dans une république. Il faut alterner. Il faut libérer le pays.
Merci.
Merci.
Je vous en prie. Et si il passe le témoin au suivant en ligne qui s'annonce déjà. Bonjour. Allô? Oui.
Félicitations, il y a un monsieur Diando qui vient de m'appeler, mes 2 sacs de soja vont être achetés.
Où? Ici au Togo, bien.
Oui.
Ok.
Il s'appelle monsieur Diando.
Ok. Alors monsieur Diando, lui il a quelle solution pour venir vous acheter vos 2 sacs?
Je ne sais pas ça, il faut que je le redis, je viens de le dire, donc il vient de m'appeler.
Ok.
Donc,
dites à votre ami Diando qu'il y a de nombreuses personnes qui se retrouvent également avec le soja sur les bras. Merci, l'ami Karim. Un autre auditeur qui s'annonce. Oui, bonjour l'ami.
Oui, bonjour.
Oui.
Bonjour monsieur Saxe.
Oui, diminuez un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok, c'est monsieur.
Ouais, c'est monsieur De Gaulle.
De Gaulle. Ici au Togo.
Ouais.
Ok. Vous avez de quel quartier?
Ouais, je suis vers Foyer Pi-12 là.
Foyer Pi-12, tout à côté ici?
Oui.
Ok, nous vous écoutons.
Oui, il y a un problème qui se passe dans notre quartier là, problème de viol.
Viol?
Oui.
Au quartier de Tricondi?
Oui, là-bas.
Ah bon?
Mais le gars a violé une fille de 11 ans, le gars a 22 ans, il a violé une fille de 11 ans. Seulement le gars a fuité. Le gars en fuite. Donc, le problème est au niveau de commissariat central là-bas.
Oui, justement.
Oui.
Non, c'est important que nous éprouvions notre, l'appareil de notre État, saisissez la police, la gendarmerie. C'est leur travail de le rechercher, de l'arrêter et de le ramener pour le faire juger.
Oui, bon, le problème qui est là, la façon qui a loué la chambre actuellement là, c'est que c'est une fille, c'est une fille du quartier qui est venue chez ses camarades dans la maison.
Mm-hmm.
Et de là maintenant, et le gars l'a envoyé d'aller lui payer la bouillie.
Mm-hmm.
Et quand ils ont fait coupure de courant, il a fait rentrer dans la chambre. Et puis, ça c'est, il a violé.
Mm-hmm.
Moi, ce qui est encore marrant, c'est que la fille qui, elle, venait dans la maison, les filles-là, elles commencent à rentrer sur le gars dans sa chambre, quoi. Pour s'amuser, pour faire tout. Jusqu'à à l'heure tardive, dans la nuit.
Oui.
Et ils jouent des musiques, de façon, les musiques qu'on a interdit de jouer, là, ils jouent ces musiques-là dans la maison. Les gens ont parlé jusqu'à fatiguer.
Et les parents des enfants, alors, ils réagissaient comment?
Oui, les parents, leur maman est dans la maison, mais leur maman ne dit rien. Mais quand on veut parler, la maman se fâche. Et puis, bon, tout le monde regarde.
Et voilà le résultat.
Et voilà le résultat actuellement. Normalement, on ne doit pas rentrer encore dans cette chambre-là. La nuit, tardive, ces enfants rentrent dans la maison. Ils s'amusent en sortant disant qu'ils vont voir la télé.
Eh oui. Hein? C'est ce que nous avons dit au début, que Michel a été vraiment très clair. Hein?
Ah, ils vont voir la télé. Et moi, j'ai peur. Hein? Le maman est dans la cour, mais le maman ne parle pas.
Merci. Il s'agit quand même des filles mineures. Merci d'en informer la police et la gendarmerie. C'est leur travail régalien de rechercher de tels individus, les faire arrêter pour que la justice décide de leur sort. Un tout dernier auditeur aujourd'hui?
Oui, ça c'est M. Kofi.
C'est M. Kofi?
Oui, second.
Oui.
Et par rapport à la gestion du pays, je pense qu'il y a trop de laxisme.
Il y a?
Alors, lui, on voit les choses. Nous avons trop d'institutions où il y a des intermédiaires. On parle ici des décisions, la cour d'appel, tout ces gens. Alors lui, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des citoyens intermédiaires autour de vous? Nous n'avons plus de pièces d'identité, nous sommes des intermédiaires autour de vous. Il va falloir que le gouvernement commence à réagir. Lorsqu'il s'agit de la politique, hein, il reste très vite. Mais lorsque les citoyens posent des problèmes qui sont leur quotidien, ils ne parlent pas. Le soldat sait combien de jours on en parle. Mais le gouvernement ne réagit pas. On dirait qu'il n'y a même pas de ministère.
Merci beaucoup. Merci. Donc, les institutions en souffrance en fin de mandat, beaucoup d'intermédiaires hein, à la tête de nos services, de nos services publics. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut recourir au texte. Et nous y conformer, c'est ce que la République nous demande. Merci aux auditeurs qui ont pu entrer en ligne. Nous excusons auprès de ceux qui l'auraient souhaité, mais qui ne l'ont pas pu. Ici, dernier tour de table avec une minute à chacun pour vos conclusions. Magloire?
Non, moi, je n'ai plus grand-chose à dire. Nous avons fait le débat. Les auditeurs aussi ont essayé de compléter. L'essentiel est que chacun fasse bien son job. Hein, pour que le Togo puisse en sortir gagnant à la fin. Maintenant, mon carton, je crois que ça doit être un carton rouge, mais à qui concrètement, je ne sais pas. Parce que depuis hier, il y a une vidéo qui circule, une vidéo dans laquelle on voit des humains comme vous et moi en train de pousser un train à Lomé ici, notre fameux train. Alors je dis, cette image-là, vraiment, ça n'honore pas le pays. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas à qui est destiné mon carton.
C'est un montage ou bien...
Non, c'est vraiment une réalité. Hein.
Ça, des bras humains
bien
qui poussent le train.
Notre fameux train qui dégage assez de fumée est encore tombé en panne. Et c'est des gens qui essaient de...
Donc, les Togolais sont forts comme ça jusqu'à pousser un train.
Est-ce que ce n'est pas une vidéo montée par IA?
Même pas. Je vous assure, vous ne l'avez pas une fois croisé. C'est pourquoi ça vous étonne. Mais dans ce pays, il y a des choses qui se passent qui vous paraîtront étranges, mais pourtant vraies. Il faudrait quand même qu'on corrige cet état de choses.
Merci. Jean Houlot, Polorini.
Je ne veux pas revenir sur ce que les auditeurs ont dit. C'est juste interpeller une fois encore les parents.
Le micro?
Oui, je dis, je ne vais pas revenir encore sur ce que les auditeurs ont dit, mais c'est juste interpeller une fois encore les parents d'enfants. Parce que quand il y a un viol, ce qu'on oublie, c'est que parfois, la responsabilité des parents est mise en cause également. sachez dorénavant la conduite à donner à vos enfants à tenir. Lorsque vous êtes dans des maisons avec des locataires, ou bien il y a des tontons, des personnes en âge, sachez comment mettre les garde-fous à vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, avec ce que nous voyons, vous ne verrez pas le violeur dans les yeux. Ce n'est pas qu'il viole sur son front, violeur sur son front, ni sur son dos. Mais alors, sachez informer vos enfants qu'ils prennent les précautions qu'il faut afin de ne pas être victime de viols comme la petite qui est Josiane et malheureusement qui est passée de vie à trépas. Je n'ai pas de carton.
Avec également le cas de, que cet auditeur de Haute Rue Condis vient de partager avec
nous. Mon seul mot, c'est condoléances à la famille et à toutes les personnes vraiment victimes de viols. Beaucoup de courage et que le Seigneur vous fortifie.
Et l'Ankosi,
je vais dire plutôt demander au gouvernement de revoir la filière soja. Vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des familles qui vivent de cette filière. Et ça fait des mois que des gens parlent. Ça fait des mois qu'il y a une crise dans le secteur. Ça fait des mois que les banques ne cessent de réclamer les intérêts, les prêts que les gens ont contractés. Je crois que c'est le moment, surtout à l'heure où on parle beaucoup plus d'agriculture, de pouvoir sauver cette filière avant qu'il ne soit trop tard.
Merci. On termine par le Tchadjo, Michel.
Non, je voulais poser une question à Bagloa. On ne sait pas, quand ils ont poussé le train là, il a finalement pris une commande. Parce qu'il a dit qu'on poussait, mais on ne sait pas si finalement alors, ça a pu démarrer ou pas. Parce que c'est ça.
Oui, en fait, ce n'est pas... Le train était toujours en marche, mais je crois que
il manquait
de vitesse. Il fallait dégager la circulation. C'était
oui.
ça.
Il fallait l'aider à aller plus vite.
Voilà, non pas aller plus vite, mais vous savez, ça obstruit la circulation.
Oui, pour libérer la voie.
Donc, de bonne volonté, il fallait plutôt les encourager. De bonne volonté, sont portés. Voilà. Bon samaritain pour faire ce job. Mais ça ne devrait pas arriver. Mais il voulait sauver une situation. C'est ça aussi. Okay.
Michel, tu as la réponse à ta question.
Je n'ai pas de carton, mais seulement à beaucoup de vigilance, surtout en ces débuts de vacances. J'ai vu certaines images, je ne sais pas, c'est au Togo ou ailleurs, où on a mis des enfants dans des sacs. Les gens, les passeurs, ils ont pris les enfants qu'ils ont mis dans des sacs. Et juste peut-être après la traversée de la frontière, ils vont ouvrir quelque chose comme ça. Donc, c'est des images qui doivent interpeller les parents à être beaucoup plus vigilants, rigoureux, vraiment dans la surveillance des enfants. Parce que il y a les gens pervers, il y a des gens, c'est pas des vautours hein, qui sont là, qui rôdent à tout instant.
Merci à vous, ici au studio, les techniciens, aussi et surtout les auditeurs et auditrices, dont certaines personnes ont à co-animer avec nous. Nous nous souhaitons une bonne journée. Avec l'invitation réitérée de nous retrouver au studio ici au Club de la Presse demain vendredi à 11h et prions que Dieu le veuille.
À tous ceux qui traversent un moment difficile, sachez que le second nom de Dieu, c'est le temps. A théâtre la musique
Angel.
Mon ami, ce qui ne me tue pas, ça me rend fort, ça me rend fort. Et je te dis, malgré les coups bas de la vie, moi je rêve, je te me fous. Mais ne t'en fais pas,
Dieu a elle l'ombre. Et la retourne à chacun son tour, on y passera. Mais ne t'en fais pas, le temps nous dira. Accroche-toi et garde espoir, on y arrivera. Alléluia. Je crains rien, moi je garde la foi. Je tiens bon et mon tout viendra. Car comment je respire, j'ai de belles choses à accomplir. On ne vit qu'une seule fois, une seule fois, pas toi. Le succès à l'approche, lève-toi, pas toi. On ne vit qu'une seule fois, pas toi. Le succès à l'approche, lève-toi, pas toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, loué Yahweh, alléluia. David a vaincu Goliath, une pierre d'assassin. Daniel dans la fosse au lion a survécu, t'as pas d'excuse.